Et le journal vous est présenté par Sébastien Logénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Karine, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, l'automne au mois de juillet, les fortes pluies, les températures fraîches gâchent ce début d'été dans bon nombre de départements. Nous serons au début de journal dans un camping de Savoie où les vacanciers annulent carrément leur séjour. Le nouveau tour de vis de l'exécutif sur le Covid, il y avait l'élargissement du pass sanitaire, mais il y aura aussi l'instauration de 10 jours d'isolement obligatoire pour les cas positifs. À suivre également les laboratoires qui se préparent à une explosion des demandes de tests PCR, des chercheurs qui s'intéressent aux effets de l'ultra-trail sur le corps, ces courses épuisantes en montagne, et puis le lancement d'une nouvelle structure pour défendre la laïcité en France, l'installation officielle du comité interministériel de la laïcité aujourd'hui.
Et à 7h50, la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, sera justement notre invitée pour nous présenter ce nouveau comité laïcité.
France Inter.
Et on commence avec des vacanciers qui plient les gaules.
Oui, marre de la pluie, marre des températures d'automne, surtout quand on est au camping, en caravane ou pire, sous une tente. Résultat, ils sont déjà quelques-uns à renoncer ou à écourter leur congé à cause de la météo. Exemple, en Savoie, au camping de l'île aux Cygnes, au bord du lac du Bourget, sur les deux premières semaines du mois de juillet, il a plu trois fois plus que d'habitude. Pas l'idéal pour se détendre. Reportage signé Valentine Letesse.
Devant le camping, Elisabeth dit au revoir à sa fille, à sa petite fille qui repartent déjà en Isère.
Sa petite fille va aller chez la nounou parce qu'effectivement la garder avec ce temps, c'est pas grave pour elle et pour nous quoi.
Du coup la mamie aussi raccourcit son séjour.
On devait rester jusqu'à jeudi, on restera jusqu'à lundi. Pour nous les vacances au lac, c'est la baignade, c'est le vélo, c'est les parties de raquettes, tout ça quoi. Ça a rien à voir avec le temps qu'il fait en ce moment.
Et elle n'est pas la seule à le penser, confirme Nilda à la réception.
On a à peu près une dizaine d'annulations de séjours à l'avance et on a pareil une dizaine de séjours raccourcis à cause de la météo sur les deux premières semaines de juillet.
Malgré tout, la majorité des campeurs résistent.
Bonjour, bonjour.
Le sol dit au vent, on fait passer l'eau, donc on a toujours les pieds dans l'eau le soir quand il pleut bien fort. Ouais. Ah, c'est fantastique. Hein.
Bonjour. Alors j'ai quand même trouvé la seule courageuse du camping qui se baigne malgré la pluie.
C'est ma fille, moi, qui m'oblige à rester sous la pluie pour la surveiller.
Elle est bonne l'eau, Jeanne?
Oui. Au début, elle est froide et après, on attend un peu et puis on s'habitue.
En revanche, pour Eugénie, 11 ans, c'est la grosse déprime.
Bah, je joue aux jeux vidéo, je regarde mon téléphone, je lis de temps en temps et c'est tout ce que je fais. Je fais rien d'autre.
Et le chien alors?
Bah, il pleure et il fait rien d'autre.
Clairement, ce n'est pas un temps à laisser un chien dehors.
Voilà, courage pour le chien, ça devrait s'améliorer à partir de demain en Savoie et aussi sur une bonne partie du pays. En revanche, ça reste inhabituellement pluvieux sur l'est de la France, la Haute-Marne, le Doubs, la Haute-Saône et le Jura restent en vigilance orange, pluie, inondation, des intempéries qui ont provoqué également de fortes crues chez nos voisins belges en Wallonie, inondation dans la ville de Spa, des centaines d'habitants évacués et un corps retrouvé dans la Meuse.
C'est une mesure de plus dans le nouvel arsenal anti-Covid.
L'isolement obligatoire pendant 10 jours sous peine d'amende pour toute personne testée positive. Le même régime que celui qui était jusqu'ici réservé aux personnes entrant sur le territoire français. Cette mesure apparaîtra dans le projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres. Cet isolement, c'est le retour d'une idée qui n'avait jamais réussi à être appliquée jusqu'ici, calquée sur ce qui se fait depuis le début de la pandémie en Asie. Une mesure que salue le député de la majorité, Olivier Becht. Il avait tenté d'imposer ce texte en novembre dernier sans succès.
Ce sont des pays qui ont mis ça en place essentiellement en Asie et en Océanie. Il y a des pays qui ont très bien réussi, hein, la Corée, le Vietnam, Taïwan, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Alors ce sont des batailles qui ne sont jamais gagnées.
Et pourquoi il y a 9 mois, ces exemples-là n'ont pas été suivis en France?
Il y avait quelques doutes sur l'acceptabilité de la mesure par les Françaises et les Français, alors que certains pensaient que l'épidémie allait s'arrêter d'elle-même. Il y avait dans le corps médical, certaines personnes qui disaient « mais nous n'avons jamais isolé dans la tradition médicale française ». Je pense que les Françaises et les Français aujourd'hui souhaitent tous qu'on puisse sortir le plus rapidement possible de cette épidémie. Ils ont compris que si on ne faisait pas des efforts, eh bien on allait être condamné à vivre pendant longtemps ces espèces de succession de périodes de confinement, de couvre-feu et que tout ça devient insupportable.
Voilà, le député Olivier Becht avec Yaël Gauze, les personnes personnes isolées pourront être contrôlées par les forces de l'ordre. Elles auront le droit de sortir de 10h à midi. Cette politique du bâton passe mal auprès de certains citoyens. Plus de 19 000 personnes ont manifesté hier contre l'extension du pass sanitaire. À Paris, plus de 2 000 manifestants dispersés en fin de cortège à coups de gaz lacrymogène. À Annecy, plusieurs centaines de manifestants, eux, ont cassé une grille de la préfecture. Et puis, autre conséquence de ce coup de pression, une ruée sur les sites de rendez-vous pour se faire vacciner. Plus de 2 millions de Français ont déjà pris rendez-vous selon Doctolib. Une ruée en perspective également sur les tests PCR. L'extension du pass sanitaire devrait faire grimper la demande de ces tests nasopharyngés dans les prochaines semaines. Les laboratoires d'analyse, en tout cas, s'y préparent, comme ici en Bretagne. Nicolas Olivier de France Bleu Brésisel.
Chez Servalliance Finistère, on anticipe une hausse d'activité de 20 à 30%, soit plusieurs centaines de tests PCR supplémentaires chaque jour. Le directeur général, Guénolé Prigent.
On sait que le temps d'être vacciné, d'avoir le schéma complet, ça va prendre du temps. Et donc à partir de là, au moins pour tout le mois d'août, il y aura effectivement beaucoup de tests. Les tests vont forcément augmenter de manière importante à partir de la semaine prochaine.
Servalliance et Eurofin, les principaux laboratoires, ont déjà décidé de renforcer leurs équipes. Il faudra surtout recruter des préleveurs. La demande devrait logiquement retomber dans quelques mois lorsque les tests deviendront payants.
Effectivement, sur les demandes par rapport à un voyage, à un festival, ce genre de choses, un peu des demandes dites de confort, on en aura effectivement moins. Je pense que les gens vont se faire vacciner pour éviter de payer.
Dès l'automne, les tests sans ordonnance pourraient être facturés 49€ pour un PCR et 29 pour un antigénique en pharmacie.
Nicolas Olivier de France Bleu Brésisel. Alors afin de voir comment est vécu ce nouveau tour de vis sanitaire, Emmanuel Macron reprend la route aujourd'hui. Déplacement pendant 2 jours du chef de l'État dans les Hautes-Pyrénées, notamment pour suivre une étape de montagne du Tour de France. Le chef de l'État qui devrait faire état des derniers chiffres de l'épidémie en hausse constante. Plus de 8800 contaminations hier, le double d'il y a une semaine.
Et pendant que le président sera sur les routes pour parler situation sanitaire, le Premier ministre lui reste à Paris pour parler laïcité.
Lancement aujourd'hui à Matignon du comité interministériel de la laïcité sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. 18 ministères représentés aujourd'hui avec un mot d'ordre à cette réunion, mobiliser l'administration pour appliquer le projet de loi sur le séparatisme. Le détail de ce nouveau dispositif avec Thibault Lefèvre.
La grande nouveauté, c'est la reprise en main par l'exécutif du contrôle de l'application des principes de la laïcité, avec la création d'un bureau au ministère de l'Intérieur, un organisme centralisé, donc pour faire oublier l'Observatoire de la laïcité, dissous au début de l'été et présidé en toute indépendance jusqu'en avril dernier par Jean-Louis Bianco.
C'est une idée étrange, comme si on avait un bureau de la liberté, un bureau de l'égalité, un bureau de la fraternité. Il va essayer de quoi faire, de se battre avec d'autres bureaux pour savoir qui fait quoi. Donc je ne comprends pas bien à quoi ça va servir, sauf en effet à vouloir contrôler. Donc c'est une idée surprenante.
L'autre décision importante concerne l'accompagnement des agents publics. L'exécutif se donne 4 ans pour former plus de 5 millions de personnes. Enfin, parmi les autres mesures, la réaffirmation du principe de neutralité dans tous les organismes qui ont une mission de service public, la nomination d'un référent laïcité dans les administrations, l'obligation pour les associations de signer un nouveau contrat d'engagement républicain si elles veulent bénéficier de subventions publiques. Enfin, une dernière mesure plus symbolique consiste à célébrer tous les ans la laïcité. Ce sera le 9 décembre, le jour de l'adoption de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État.
Le comité laïcité, on en reparle à 7h50 avec la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa. Un mot de politique encore avec la candidature officielle de Florian Philippot à la présidentielle de 2022, l'ex numéro 2 du Front National, qui prône notamment le Frexit. En bref, à l'étranger, l'hospitalisation du président brésilien, Jair Bolsonaro, qui souffre d'une occlusion intestinale. Bolsonaro opéré à plusieurs reprises ces deux dernières années, après avoir été victime d'une attaque au couteau en septembre 2018 en pleine campagne électorale.
On termine avec des fous de la course à pied.
On appelle ça l'ultra trail, du jogging en pleine montagne en quelque sorte, qui au-delà de l'exploit physique intéresse de plus en plus les chercheurs. Ainsi, depuis 3 ans, l'UT4M, l'ultra tour des 4 massifs, travaille en collaboration avec l'INSERM et le CHU de Grenoble pour réaliser des recherches physiologiques et mesurer les effets du trail sur des coureurs volontaires. Cette année, Véronique Julia, la recherche va porter sur la santé articulaire et la régulation de la glycémie pendant la course.
Plusieurs milliers de participants, des courses sur un jour ou sur quatre jours, de 10 à 160 km, avec jusqu'à 10 000 mètres de dénivelé. On s'adresse ici à des amateurs qui se font plaisir ou à des quasi-professionnels qui vont se tester sur un parcours extrême. Quel que soit le niveau, on va mesurer comment le coureur le vit. 40 d'entre eux vont être équipés et suivis pour la recherche. Premier axe, l'impact de la course sur le cartilage du genou particulièrement sollicité. Il sera mesuré par une série d'IRM. Samuel Vergès dirige les opérations. Il est docteur en physiologie.
Tout l'enjeu après, c'est de voir à quelle vitesse cette fatigue se remet, ou est-ce que c'est un dommage fixe. Un mois donc après la course, est-ce qu'on a des genoux qui sont revenus dans l'état initial ou pas?
Deuxième axe de recherche, l'impact d'un effort long et intense sur le taux de glucose dans le sang. Les coureurs seront équipés de capteurs de glycémie. Objectif, mesurer l'énergie dépensée durant la course, mais aussi tester la fiabilité des capteurs existants, qui sont par ailleurs couramment utilisés par les patients diabétiques.
Jusqu'à quel point on est capable d'avoir une mesure robuste de la glycémie, qui, si elle est robuste dans des conditions un petit peu extrêmes comme ça, de fait, sera aussi juste chez un patient qu'il faudra perpétuellement toute la journée mesurer avec un patch.
Et cette recherche s'inscrit dans la durée. Ces dernières années, les chercheurs avaient déjà travaillé sur la préparation physique avant la course, ainsi que sur la récupération cardiaque, musculaire et cérébrale après la course.
Véronique Julia, spécialiste santé à Inter, il y a aussi un truc pas mal, Karine, pour la récupération cardiaque et cérébrale. Je vous conseille la sieste, tout simplement, dans un hamac, bien moins traumatisant, paraît-il, pour les genoux.
Vous n'êtes pas sérieux, Sébastien Logeni. Allez,
j'en
bonne journée.
J'en ai très envie de cette sieste.
Tout de suite, l'édito politique.